Chapitre 7. Après avoir traversé le quartier douteux où elle avait dû secourir un jeune idiot, Nietzsche passa par un secteur plus prospère, où s'alignaient des entrepôts et des bâtiments administratifs. Fenêtres et portes ouvertes pour faire du courant d'air, les bureaux du capitaine du port grouillaient d'activité. Dehors, des fonctionnaires en pourpoint à col montant arpentaient les quais avec des liasses de documents afin d'interroger les quartiers maîtres des différents navires, de recouper les informations et d'appliquer au demi-sou près toutes les taxes possibles et imaginables. Sur les quais, les auberges et les tavernes arboraient des enseignes peu engageantes et portaient des noms déplaisants. Aujourd'hui, le groin élasticot était inhabituellement bondé par des gens qui dialoguaient en beuglant, pas en parlant. Devant la taverne, un gamin obèse proposait des tourtes à la viande brûlée aux marins assis sur les marches ou adossés à la façade. Pris d'assaut par des hordes d'hommes privés de femmes, les bordels miteux se serraient tant les uns contre les autres que les clients d'un établissement pouvaient entendre les ébats de celui d'à côté. Une forme d'émulation des plus originales, il fallait en convenir. Sur les façades, des fresques érotiques suggéraient plus ou moins artistiquement les services que la clientèle pouvait attendre des filles et des garçons proposés à la location. En étudiant ces représentations, Nietzsche douta que les marins, si souples et en forme soient-ils, soient capables de tenir longtemps des positions si acrobatiques. La magicienne se mordit la lèvre inférieure, là où un anneau d'or, jadis, indiquait qu'elle appartenait à Jagang. Pour avoir subi l'épreuve de servir sous les tentes, comme on disait alors, elle savait que les hommes, prompts à se présenter comme des amants aux prouesses extraordinaires, étaient en règle générale des brutes qui faisaient leur petite affaire en vitesse et sans souci de subtilité. En pressant le pas, Nietzsche passa devant les stands des prêteurs sur gage. Les plus extravagants, avait-elle entendu dire, finançaient des expéditions au long cours. Plus modestes, les usuriers lambda pressaient comme des citrons des marins déboussolés. L'air dévasté, un pauvre type avait été mis au pilori devant la boutique de son prêteur. Plié en deux, à demi-fou, à force de se débattre, il était régulièrement bombardé de fruits pourris. Tel un tigre, il rugissait à l'intention des passants qui le couvraient de ladzi. Nietzsche connaissait parfaitement la façon de fonctionner de Tanimura. Prétendument touché par le sort de ce malheureux, un capitaine rachèterait ses dettes et le prendrait à bord comme membre de l'équipage contractuel. Contraint de verser des intérêts faramineux à son bienfaiteur, la totalité de sa solde le plus souvent, le miraculé serait en réalité réduit en esclavage. Même si elle n'approuvait pas ses méthodes, Nietzsche avait peu de sympathie pour les crétins dépensiers qui se laissaient mettre dans une situation pareille. Remontant les quais, elle lisait le nom des navires, guettant le randonneur des vagues, que Bannon Farmer lui avait chaudement recommandé. Faire la différence entre les bateaux commerciaux et les autres n'avait rien de compliqué. La taille d'abord, puis le profil. Empâté pour les transporteurs et élancé pour les navires de guerre ou les patrouilleurs. Par groupe, des costauds torse nus proposaient leur service. Tels des bêtes de trait humaines, ils transportaient toutes sortes de biens sous les cris de marchands leur intimant de faire attention à ne rien casser. Près des bateaux, d'autres travailleurs, en tirant sur des cordes, actionnaient les poulies des systèmes de levage qui assuraient le chargement des navires. Sur le pont d'un transporteur à la coque souillée de graisse et de fumée, les marins luttaient pour soulever avec un palan l'énorme tentacule de quelques créatures marines géantes. La peau grise parcheminée, couverte de limon, arborait de grosses ventouses. Basculant enfin dans le vide, le gros morceau de chair s'écrasa sur le quai avec un bruit humide. Des poissonniers s'y attaquèrent avec des scies et des coutelas afin de le débiter en tranches. Autour d'eux, leurs jeunes apprentis allaient et venaient en criant.
« Chair de Kraken fraîche, occasion à saisir !»
L'odeur lui donnant la nausée, Nietzsche eut du mal à croire que quelqu'un pouvait manger cette horreur.
« Te voilà enfin, magicienne !»
La voix de Nathan fit sursauter la jeune femme.
« Je suis prêt à t'aider à trouver un bateau pour notre fière expédition dans l'Ancien Monde. »
Nietzsche se tourna vers le sorcier et faillit éclater de rire. En quittant le palais du peuple, Nathan portait de beaux vêtements de voyage. Pendant la traversée des terres noires, puis le trajet jusqu'à Tanimura, les choses s'étaient gâtées. Poignets de la veste élimée, ourlets de la cape déchirée, couleur passée. Désormais, le prophète paradait dans un pantalon en cuir marron et une chemise blanche à jabot aux manches bouffantes et aux poignets à revers. Dessus, il portait un pourpoint brodé et une cape d'un vert très forestier. Un gros sac pendait à son épaule, sans doute plein de chemises blanches de rechange, la pire couleur pour voyager, les taches se voyant de très loin, d'un autre pantalon et peut-être même d'une seconde cape, comme s'il avait eu besoin de la première pour commencer. Devant le sourire de sa compagne, pourtant tout sauf admiratif, Nathan fit la roue.
« Je vais réviser mon opinion sur Tanimura, » dit-il. « Malgré les mauvais souvenirs que j'en garde, c'est une merveilleuse cité. Un quartier entier consacré aux tailleurs. Confection de chemises, de gilets, de pantalons, de manteaux. Le choix est extraordinaire. »
Il baissa le ton.
« J'ai même découvert deux rues entièrement dédiées aux dessous féminins. »
Le sorcier fit un clin d'œil à Nietzsche. « Pour la taquiner, comprit-elle.
« Je devrais t'y emmener, magicienne. »«
J'en doute. Ma robe noire et mes autres tenues sont parfaites et je voyage au service de Richard. »
Des sous-vêtements coquins pour séduire un type de passage. Quand l'envie lui en prenait, Nietzsche n'avait jamais besoin de dentelle. Avec son enthousiasme inépuisable, Nathan continua son énumération.
« Des cordonniers qui proposent tous les styles de chaussures. »
Du bout du pied, il tapa contre un muret pour ajuster la position de ses orteils dans ses nouvelles bottes noires.
« Des sculpteurs de boutons et même des fabricants de boucles de ceinture. C'est un métier, tu le savais ?»
Nietzsche imagina le vieil homme émerveillé par toutes ces boutiques. Un enfant dans un magasin de confiserie.
« Je suis surprise que tu te sois décidé si vite. »«
Étonnant, non. Après ma première évasion du palais des prophètes, je suis allé chez un tailleur en compagnie de Clarissa. Mais c'était à l'extérieur de Tanimura. Cet artisan très méticuleux a eu besoin de temps pour livrer ma commande. »
Une lueur mélancolique passa dans les yeux du vieil homme.
« Ici, avec un tel choix... « Il suffit de sélectionner un vêtement et un tailleur te trouve très vite un modèle à ta taille. »
Nathan tapota son sac.
« J'ai acheté plusieurs tenues. Du coup, je suis prêt au départ. Nous as-tu trouvé un bateau ?»
Nietzsche pensa brièvement au pauvre rouquin dévalisé.
« Je cherche le randonneur des vagues. Une carac à trois mâts qui doit appareiller ce soir. Il devrait nous convenir. »«
Suis-moi, » dit Nathan. « Ton randonneur est par là. »
Nietzsche ne demanda pas comment le sorcier le savait, ni combien de temps il avait passé à explorer le port sans elle. Le randonneur était amarré au troisième quai à partir de la fin. Sa figure de proue, une superbe femme, était dotée d'une cascade de tresses bouclées qui se transformaient en vagues dans son dos. Mère la mer, une légende très prisée dans les villes de la côte méridionale de l'Ancien Monde. En prévision du départ, on finissait de charger les barriques d'eau ou de poissons en saumure. Des marins hissaient à bord des cages à volailles et le cuisinier, un type au ventre rebondi, tenait par la longe une belle vache à lait. Accoudés au bastingage, des matelots observaient d'un œil morne les quais grouillant d'activité. La plupart étaient mal en point. Gueule de bois, séquelles d'une rixe. Délestés de leur argent, ils étaient revenus en avant sur le bateau, faute d'avoir ailleurs où aller. Sac à l'épaule, Nietzsche et Nathan gravirent la rampe d'embarquement. Une fois sur le pont, le sorcier salua un type assez âgé en uniforme de capitaine qui se leva aussitôt de son tabouret en bois. Sur son vaisseau, cet homme avait l'air comme chez lui, à croire que les distractions de Tanimura ne l'intéressaient pas. Retirant une longue pipe de sa bouche, il exhala un nuage de fumée odorante, à l'évidence il ne consommait pas que du tabac, et se tourna vers les deux nouveaux venus.
« Capitaine Ellie ?»
demanda Nietzsche. Sourcils froncés, le type hocha brièvement la tête.
« Ellie Corwin, madame. D'où connaissez-vous mon nom ?»«
Un de vos matelots m'a conseillé de vous contacter. Nous allons vers le sud et nous sommes pressés de partir. »
Ellie retira sa casquette. Ses cheveux noirs épais striés de gris, il arborait un collier de barbe sur un visage sinon rasé de près.
« Si lever l'ancre ce soir vous convient, le randonneur est à votre disposition. C'est un transporteur, mais nous avons de la place pour des passagers, contre un paiement convenable.
Nous avons mieux que de l'argent, dit Nathan.
Quand il bomba le torse de fierté, la dentelle de sa chemise se gonfla, rappelant une fleur sur le point d'éclore. De sa sacoche, il sortit une feuille de parchemin et la tendit au capitaine.
Ce texte rédigé de la main du seigneur Rall me nomme ambassadeur itinérant de Dara. Ce statut et ses prérogatives s'appliquent aussi à mes compagnons de voyage.
Ellie parcourut le document du regard, bien trop vite pour le lire, remarqua Nietzsche.
Ce décret et un paiement adéquat suffiront pour que je vous accepte à bord, dit-il, pas le moins du monde impressionné.
Nietzsche sentit la moutarde lui monter au nez.
« Le décret nous exempte de paiement, »
fit-elle.
« En principe, oui. »
Ellie remit sa casquette et reprit sa pipe en bouche.
« Mais les faux sont si fréquents. Pour abuser un pauvre capitaine, que ne ferait-on pas? Un homme puissant comme votre seigneur Rall doit être assez riche pour vous payer un passage, pas vrai ?»
Le capitaine désigna le navire d'à côté en cours de déchargement.
« Ici, presque tous les capitaines se ficheraient du décret d'un dirigeant dont ils n'ont jamais entendu parler. Moi, j'essaie d'être équitable. »
Arrivée sur le pont, la vache meugla quand le cuisinier tenta de la faire passer sur un niveau inférieur.
« Informer le monde de l'avènement du seigneur Rall fait partie de notre mission, » dit Nietzsche.
L'autre quête, affectée par Rouge, continuait à lui paraître farfelue. Ellie se rassit sur son tabouret.
Je vous encourage à parler du seigneur Rall à tous mes hommes et à leur vanter son formidable nouvel empire, si vous payez pour vos cabines.
Nietzsche serait dit, prêt à faire rendre gorge à Ellie, mais Nathan intervint.
C'est un marché raisonnable, capitaine. Vous êtes un homme d'affaires et nous savons nous montrer juste.
Le sorcier décrocha une bourse de sa ceinture, l'ouvrit et fit tomber plusieurs pièces d'or dans la main tendue d'Ellie. Surpris, l'homme regarda l'argent, réfléchit un peu, puis rendit deux pièces à Nathan.
« Ça suffira, merci. »
Pendant qu'Ellie rangeait son butin dans sa propre bourse, Nathan souffla à l'oreille de Nietzsche.
« On pourra toujours en fabriquer d'autres. Alors, pourquoi ne pas le rendre heureux ?»
Au lieu de se charger de sacs de pièces prélevés dans le trésor de Dara, Nathan recourait à sa magie pour transformer en or le fer et d'autres métaux communs. Ainsi, il ne risquerait jamais d'être à court d'argent. Dans les terres noires, la monnaie ne servait à rien, tous des sauvages, mais partout ailleurs, elle restait un sésame universel.
« Pour un prix pareil, » ajouta Nathan à haute voix, « ma compagne et moi entendons disposer de cabines de luxe. »
Ellie ricana.
« De luxe ? On voit bien que vous n'êtes jamais monté à bord du randonneur, ni d'un autre bateau d'ailleurs. Oui, vous aurez chacun une cabine. Certains rupins parleraient de placard à balai, mais vous disposerez d'une couchette et d'une porte. Après 2 semaines en mer, vous aurez l'impression de vivre dans un palais. »
Pourvu qu'elle arrive à destination, Nietzsche se fichait bien du luxe.
« Ça paraît acceptable. »
Les marins qui traînaient sur le pont regardèrent les nouveaux passagers comme s'ils étaient des poissons remontés dans un filet de pêche. Le départ étant imminent, des matelots continuaient à arriver, certains dans le brouillard de l'alcool et d'autres chargés d'objets achetés dans le port. Ils jetèrent des coups d'œil intrigués à Nathan, sans doute à cause de sa tenue excentrique et de son épée ouvragée, mais s'intéressèrent surtout à Nietzsche, fasciné par ses cheveux blonds et la robe noire qui mettait en valeur ses courbes. Regardant autour d'elle, la magicienne ne vit pas trace du rouquin qu'elle avait sauvé. Sans se soucier de la curiosité des marins, le capitaine conduisit ses passagers à leur cabine. En traversant le pont, Nietzsche remarqua 5 types torse nus qui arboraient sur la poitrine une ligne ondulée composée de cercles. Tous ces tatoués, la peau sombre, portaient en queue de cheval leurs longs cheveux noirs. Alors que presque tous les autres matelots détournaient la tête pour ne pas croiser le regard de la magicienne, ceux-là la reluquaient sans cacher leur désir bestial. Quand il s'en aperçut, Nathan vint se camper devant Nietzsche.
« Du balai ! Ne savez-vous pas qu'elle est la maîtresse de la mort ?»
À regret, les types s'écartèrent. Les cabines, à la poupe du bateau, se révélèrent aussi petites et banales que prévues. Sentant la déception de Nathan, Nietzsche tenta de le consoler. «
Une cabine, même petite, c'est toujours mieux que de dormir sous la pluie dans le brouillard perpétuel des terres noires.
Bravo pour ton optimisme, magicienne. Je ne peux qu'approuver.
Alors que le soleil se couchait sur le delta du fleuve Kern, la marée commençant à monter, les deux passagers allèrent sur le pont pour assister au départ. Tandis que leur capitaine beuglait des ordres, les marins s'affairaient dans le gréement pour déplier les voiles. Au son des cloches qui annonçaient l'heure partout dans le port, d'autres allèrent s'occuper de larguer les amarres. Toujours aucune trace de Bannon Farmer.
Nietzsche supposa qu'il avait rencontré d'autres voleurs qui s'étaient empressés de lui trancher la gorge.
Au moment où les matelots s'apprêtaient à remonter la rampe d'embarquement, un jeune type roux déboula sur le quai.
« Attendez-moi »
cria-t-il.
« Du randonneur, attendez-moi !»
Nietzsche remarqua que le rouquin portait à présent une épée au côté. Bannon slaloma entre les marchands et les dockers, bouscula un marin ivre-mort qui ne semblait plus se rappeler le nom de son bateau et gravit au pas de course la rampe d'embarquement. Quelques marins éclatèrent de rire et d'autres échangèrent des pièces de monnaie.
« J'avais parié qu'il serait trop bête pour quitter le navire à la première occasion !»
railla un matelot. Le capitaine foudroya Bannon du regard.
« Certains de tes collègues pensaient qu'on ne te reverrait plus, matelot farmer. La prochaine fois, ne sois pas en retard. »
« Je n'étais pas en retard, capitaine !»
halta Bannon.
« Mais juste à l'heure !»
Dès qu'il aperçut Nietzsche, le jeune homme rayonna, son sourire soulignant l'état pitoyable de ses lèvres.
« Tu es là ? Bienvenue à bord du randonneur des vagues !»«
Eh bien, nous avons embarqué, oui. Ce navire va dans notre direction.
Merci pour le conseil. »
Bannon désigna son épée.
« J'en ai trouvé une, comme je le disais. »
« Une épée, ça ?»
railla un matelot.
« Un cure-dent, plutôt !»«
Bannon !» lança un autre type. « Qui compte-tu impressionner avec ce truc ? Une aveugle ou une fermière qui veut désherber un champ ?»
Des éclats de rire retentirent. Vexé, Bannon baissa les yeux sur son arme, puis il se ressaisit et se força à sourire.
« Une épée n'a pas besoin d'être belle pour faire des dégâts !»
dit-il, citant Nietzsche.
« C'est une arme solide. Tiens, c'est même comme ça que je vais la baptiser. Solide. »
« Assez frimé avec ton épée, matelot farmer !»
intervint Ellie.
« Va aider tes camarades dans le gréement. Avant la nuit, je veux être au large. Compris ?»«
Magicienne, nous voilà partis !»
souffla Nathan à l'oreille de Nietzsche.
« En route pour Colader, où que ce soit.
Bon sang !» « J'ai l'impression de me sentir un peu plus entier.